Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la sombre histoire de l'Inquisition au Moyen-Âge à travers l'exemple d'un procès qui se déroula à Toulouse en plein pays cathare. L'Inquisition. Aujourd'hui encore, ce mot fait trembler. Dans notre imaginaire collectif, il évoque l'injustice, l'arbitraire, la violence et la terreur. Mais de quoi s'agit-il au juste? En latin, ce mot « inquisitio » signifie « chercher, enquêter. L'Inquisition est une institution judiciaire mise en place par l'Église catholique au XIIIe siècle pour chercher, ou plutôt pour traquer, ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Seconde partie, tuer au nom de Dieu. Le pape Innocent III, dans deux lettres datées de 1206 et 1211, avait exigé la suppression de la torture et des épreuves imposées aux suspects de crimes communs. Ces méthodes, héritées des Germains, étaient considérées comme barbares. D'ailleurs, il était interdit à un clerc de verser le sang. On s'était donc appliqué à promouvoir la persuasion par les paroles pour obtenir le repentir des pécheurs les plus endurcis. Mais l'hérésie vint remettre en question toutes ces bonnes résolutions. On l'a vu dans la première partie de cet épisode, un hérétique n'était pas un pécheur comme les autres. Outre que son âme était corrompue, il défigurait le visage de la vraie foi. Aucune méthode ne serait assez efficace pour arracher de lui ce mal qui mettait en danger la société tout entière. On réintroduisit donc une pratique abandonnée depuis deux siècles, l'ordalie. L'ordalie, c'est-à-dire l'épreuve destinée à révéler la culpabilité d'un suspect. Elle était de deux sortes. Il y avait l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau. Dans l'épreuve du feu, on donnait à l'accusé une barre de fer chauffée à blanc. Il devait la tenir dans sa main et marcher quelques pas. Puis on bandait sa main. Si trois jours plus tard aucune cicatrice n'était apparue, c'est que le suspect était innocent. On s'appuyait pour établir ces règles sur le supplice des saints. Saint Laurent, n'était-il pas resté impassible sur le grill? Dans l'épreuve de l'eau, le suspect, pieds et poings liés, était plongé dans un bac rempli d'eau froide. S'il coulait à pic, c'est qu'il était innocent. S'il flottait, c'est qu'il était coupable. Cette dernière pratique pourtant soulevait le débat. Selon certains, comme Pierre le Chantre, elle était propice à la fraude.
Le jugement de l'eau est injuste à cause de la fraude qui s'y pratique, par exemple de la part de celui qui prépare l'épreuve. Dans la manière de lier le corps en cloche, en bateau ou en boule, il le devient encore par celui qui y est soumis selon qu'il émet ou retient son souffle, car s'il sait le retenir, il surnage. Ainsi, la question de savoir si une vie doit être sacrifiée ou épargnée dépend de la ruse de celui qui sait respirer à propos ou de l'inexpérience de celui qui, paralysé par la crainte, retient son souffle.
Dans les geôles où croupissent les suspects, on procède parfois au supplice de l'endurat. Il s'agit tout simplement de priver le prisonnier de pain et d'eau jusqu'à ce qu'il avoue. S'il persiste dans son silence, l'inquisiteur va déployer tous les moyens de ruse pour le faire avouer. Par exemple, envoyer des mets succulents servis par des gens affables et souriants qui vont expliquer au malheureux que oui, il est sauvé, qu'il ne reste plus qu'une formalité à accomplir et cette formalité, c'est avouer son crime, après quoi il sera libre. Le supplice par la faim a laissé une trace bouleversante dans la tour de l'Inquisition de Carcassonne. Dans l'une des geôles, on peut lire ce graffiti creusé dans la pierre « Aescam, j'ai faim ». Dans le sud de la France, les habitants de Narbonne, de Béziers ou d'Albi ne restent pas passifs face à tant d'horreurs. Les émeutes sont fréquentes. Il arrive même qu'on se saisisse d'un homme en qui on a reconnu un assistant de l'Inquisition et qu'on le mette à mort. Quant aux dénonciateurs, il n'est pas rare qu'on les retrouve égorgés dans leur lit. Lorsque les ordalies n'ont rien donné de probant, on procède à la question. Entendez, la torture. Les méthodes les plus effrayantes sont employées pour les supplicier. L'Inquisition d'Albi avait tellement pris l'habitude de ces pratiques que les instruments de supplice restaient posés sur les prie-dieux au premier rang dans la nef de la cathédrale. Nombreux étaient ceux des accusés qui se suicidaient avant la fin du jugement. Hélas, ils croyaient en avoir fini avec la justice des hommes, ils se trompaient. L'Inquisition avait inventé pour eux un supplice outre-tombe, car si elle jugeait les vivants, elle châtiait aussi les morts. Ceux qui, parmi les trépassés, avaient été convaincus d'hérésie étaient déterrés de la tombe où ils reposaient.
La mort n'efface pas la tache d'hérésie. De même que le crime de lèse-majesté peut être poursuivi après la mort de son auteur, de même, à plus forte raison, celui que nous considérons comme un crime de lèse-majesté divine.
Cadavres et ossements sont exhumés et brûlés publiquement. Les corps en décomposition sont traînés depuis le cimetière jusque dans les rues de la ville, au milieu de la foule. Un crieur public proclame les noms au son de la trompe et menace les vivants d'un sort semblable. Parfois, le soin de s'emparer ainsi des défunts est laissé aux chiens qui achèvent la promenade en dévorant les restes des dépouilles. Dans les prisons, les accusés attendent le jour de leur comparution devant le grand inquisiteur. Pour ceux qui ont été rompus par les épreuves, la faim et la torture, c'est presque une délivrance d'entrevoir à côté du tribunal où ils vont comparaître l'échafaud où on les brûlera vifs. À Toulouse, dans la cathédrale Saint-Étienne, les accusés fébriles ou résignés attendent le verdict. La voix de l'inquisiteur retentit soudain. Elle se répercute dans le vaisseau de la nef, lugubrement. Dans l'assemblée des fidèles, on se hisse sur la pointe des pieds pour ne rien perdre du spectacle. Les verdicts tombent, l'un après l'autre. Mathieu Arcadie est condamné au port de la croix, cousu sur son vêtement, pour le crime d'avoir vu Maître Bernard, hérétique. Arnaud Izarne, enfant âgé de 11 ans, est condamné à la même peine pour avoir obéi à ses parents, hérétique. Jacques Mercadier, 18 ans également, pour ne pas avoir dénoncé ses frères, hérétique. 44 hommes et 16 femmes sont condamnés à la prison à perpétuité pour des motifs jugés gravissimes. L'une d'elles, Bernarde, a aperçu des hérétiques dans la maison de son mari et ne les a pas dénoncés. Une autre, Bernarde, sera enfermée à vie pour avoir lavé la chemise d'un hérétique. Elle ne faisait d'ailleurs que son travail, elle était blanchisseuse. Guillemette de Saint-Gélin est enfermée à vie pour avoir payé son dû à un hérétique. Pierre Géraud, emprisonné à vie pour avoir donné de l'eau ayant servi à laver les mains d'un hérétique. Une fillette de 11 ans, Alexandrie, est condamnée à porter la croix pour n'avoir pas dénoncé sa mère, hérétique. Une autre, Astruga, pour n'avoir pas empêché sa mère de mourir dans l'hérésie. Certains des futurs condamnés à ce qu'on appelait alors l'emmurement sont condamnés à l'exposition. Des jours durant, ils seront attachés à une échelle contre le portail de la cathédrale, exposés à la vue de tous. À leurs vêtements, on suspend des langues de tissu rouge, signe d'infamie. Parmi les condamnés au bûcher, il y a un certain Pierre Autier. Il écoute la sentence, tête baissée.
Il nous paraît constant et prouvé jusqu'à l'évidence, tant par les témoins que par ton odieuse profession de foi, que toi, Pierre Autier, tu t'es rendu coupable de plusieurs crimes d'hérésie, recevant les morts à la communion, infectant une foule de chrétiens du venin de l'erreur. Tu appelles notre Église, qui est la vraie, mère des fornications, basilique du diable. Tu prétends vains et inutiles les sacrements de l'Église. Telles sont les horreurs que tu professes. En conséquence, nous, inquisiteurs, craignant que, comme une brebis infectée, tu ne corrompes les autres brebis du troupeau, te déclarons hérétique opiniâtre et t'abandonnons comme tel au bras séculier. »
Abandonné au bras séculier. Formule consacrée pour tous ceux qui, ce jour-là, sont condamnés à être brûlés vifs. Dehors, la pluie a cessé. Une aubaine, car la sentence doit être exécutée immédiatement après lecture. La colère de la population n'était pourtant pas restée lettre morte. Philippe le Bel était intervenu au début du XIIIe siècle pour faire cesser l'arbitraire. Le petit-fils de Saint-Louis n'est pas de nature à tolérer l'ingérence insupportable du Saint-Siège dans la sphère temporelle. Il a de qui tenir. Son grand-père avait déjà exprimé son exaspération face à la manie qu'avait Rome de mettre le nez dans les affaires du royaume.
Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à notre cher et fidèle évêque de Toulouse, à l'inquisiteur élu du pays, salut et dilection. Les cris et les larmes de nos fidèles sujets nous ont rapporté que frère Foulque, qui se donne pour inquisiteur, se couvre du voile de la justice et de la piété pour se porter à des excès d'injustice et de cruauté. Sous prétexte de défendre la foi catholique, il ne craint pas de commettre d'horribles forfaits, foulant aux pieds par ses exactions, ses déprédations, ses violences, nos fidèles sujets. Il franchit les bornes du droit. Commençant ses recherches par des emprisonnements, des tortures et les supplices les plus inouïs, il force à des aveux, par la crainte des tourments, ce qu'il lui plaît d'accuser d'hérésie. Et quand sa méchanceté est inutile, il présente alors des témoins subornés. Nous ne souffrirons jamais que le droit de vie et de mort soit abandonné à la volonté ou au caprice d'une seule personne qui peut aisément se tromper, bien qu'elle ait la conviction d'agir conformément au principe de l'équité.
Cette lettre magnifique, si elle fut suivie d'une courte période de rémission, fut rapidement oubliée. L'Inquisition continua comme avant son œuvre indigne. Elle traversa les siècles triomphant de la volonté des monarques les mieux disposés à la faire cesser. C'est elle qui fit périr les Templiers, dont les cris de souffrance s'entendirent, dit-on, jusqu'à Vincennes. C'est elle qui brûla Jeanne d'Arc. C'est par elle que furent brûlés vifs en 1532 les moines augustins d'Anvers convertis au protestantisme. C'est pour elle que Philippe II d'Espagne assista à Valladolid en 1559 à un auto-da-fé durant lequel 26 hérétiques furent exécutés. C'est elle qui condamna au bûcher Giordano Bruno en 1600, puis le libre penseur Giulio Vanini. C'est elle qui fit abjurer Galilée. C'est par elle que furent torturés et suppliciés les francs-maçons du Portugal en 1743. La liste complète serait longue et fatiguerait notre patience. Il faudra attendre 1808 pour que Napoléon ordonne la suppression du tribunal inquisitorial. Entre-temps, les archives de l'Inquisition, par la négligence des moines chargés de les garder, avaient presque toutes disparu des monastères dominicains. Si bien qu'il ne nous reste que quelques registres conservés à Albi, Béziers ou Toulouse, pour nous faire une idée de l'étendue des crimes qu'au nom de Dieu perpétra l'Inquisition, dont le seul nom des siècles plus tard ne peut être prononcé sans un sentiment d'horreur mêlé d'une immense compassion pour ses victimes. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.